À voix nue, cette semaine, Michel Simon rencontre Pierre-William Glenn. Ce soir, la formation.
Pierre-William Glenn a beaucoup de casquettes, non seulement c'est un grand chef opérateur, puisqu'il a travaillé aussi avec des gens comme Jacques Rivette, comme François Truffaut, comme Bertrand Tavernier, Alain Corneau, Maurice Pialat, Samuel Fuller, Claude Lelouch, et on verra d'autres aussi. Il est également l'ancien président de l'Association française des directeurs de la photo, AFC, qu'il a cofondé. Il est président de la Commission supérieure technique de l'image et du son, la CST, qui remet tous les ans à Cannes le prix Vulcain, et c'est lui qui supervise tous les aspects techniques du Festival de Cannes. Il est co-directeur avec Sabine Lancelin du département image de la FEMIS, et il est aussi, last but not least, réalisateur de films depuis Le Cheval de Fer en 1975 jusqu'à son tout dernier film, Le Silence de Johnny, de cette année sur Johnny Hallyday. Alors, Pierre-William Glenn, j'ai envie de dire, bien sûr, question classique, comment vous avez eu envie d'ouvrir cette filière de la photographie? Est-ce qu'il y a eu d'autres, je crois qu'il y a eu avant d'autres choix que vous aviez faits, et puis peut-être même votre premier souvenir d'image?
Alors j'ai fait des études scientifiques de mathématiques, j'ai passé les concours des grandes écoles, hein, de Polytechnique, les mines, les ponts et chaussées, etc., centrale. Donc, après 2 ans d'études en maths sup et maths spé, donc j'étais déjà extrêmement branché sur le cinéma par mon beau-frère, qui s'est marié avec ma sœur, Claude Miller. Donc, sur l'orgueil idiot de pas doubler une classe de maths sup et de repasser, on est 1,5 en maths sup, 3,5 en maths spé, il fallait 5 demi, c'est des concours où il est difficile de rentrer la première année. J'étais orgueilleux, j'étais pas du tout au niveau des écoles que je souhaitais, donc j'ai passé le concours de la classe préparatoire de l'IDEC au lycée Voltaire, classe qui était gérée par Henri Hagel, qui m'a beaucoup appris, et Georges Albert Astre. Donc c'est un concours assez sélectif déjà pour la classe préparatoire, et le concours de l'IDEC était lui aussi extrêmement sélectif. Il y avait 4 opérateurs qui rentraient par année, et le concours pour la classe préparatoire, il y avait 40 places, c'était grandeur pour 250 candidats. J'ai passé les 2 concours avec succès, et j'ai commencé donc un travail dans la prise de vue à partir de, on va dire, 63. Je suis rentré 64 et 65 à l'IDEC, et on va dire que j'ai commencé à travailler relativement tôt, travailler dans la prise de vue relativement tôt, parce que dès l'école je faisais déjà des courts-métrages.
Mais pour passer de maths sup au concours de l'IDEC, il fallait bien que vous ayez un intérêt tout de même pour le cinéma. Donc dans votre jeunesse, qu'est-ce qui vous a marqué? Comment vous avez découvert justement ce monde?
Le cinéma, je vous dis, c'est principalement par, au départ, c'est Claude Miller. Claude Miller, moi j'habitais à Montreuil dans un petit pavillon qui est le sujet de L'Effronté, écrit par ma sœur. Et j'habitais au 143, boulevard de la Boissière, et Claude Miller habitait au 141. C'est un petit immeuble. Et depuis très jeune, Claude était très jeune, trempé, il était complètement cinéaste, cinéphile, il dessinait des bandes dessinées de films qui collaient sur des papiers en rouleau pour faire des scénarios, et dès 12-13 ans, on n'avait pas de télé, je montais voir la télé chez lui à partir de 12 ans, 13 ans avec ma sœur, et j'ai vu beaucoup de films chez lui. Là, il est rentré, lui, à l'IDEC pendant que je faisais des études mathématiques. Il m'a invité à l'IDEC. D'ailleurs, j'ai tourné comme acteur dans des films des gens de sa promotion. Hein, je me rappelle d'André Farouadji. Et la découverte de ce... m'a très, très intéressé. C'était autre chose que les études un peu abstraites que je faisais. J'ai tout de suite aimé ce qui était la matière, ce que je vais répéter souvent, la matière du cinéma, c'est-à-dire la lumière, le studio, la fiction, les caméras, l'idée de ce monde magique Rentrer dans un monde, dans un monde magique m'a tout de suite très intéressé. Je voyais déjà en Mad Space, j'étais considéré comme un farfelu, je voyais déjà une bonne vingtaine de films par mois. Donc, j'allais au cinéma tout le temps. Et quand j'ai préparé la classe préparatoire à l'IDEC, là, j'avais un complexe de, on va dire, de scientifique, de matheux, par rapport à ce qui est la culture. J'avais l'impression que j'étais passé à côté de quelque chose. Et la classe préparatoire et Agel et Astre m'ont rendu énormément service sur l'idée de m'ouvrir au cinéma et à la réflexion sur le cinéma. Donc il y avait des cours d'histoire de l'art. Je suis retourné quand je suis rentré à l'IDEC, il y avait un monsieur qui s'appelait Richard, qui avait fait un que sais-je sur l'histoire de l'art. On allait au musée voir la peinture. On avait toujours des sujets se rapportant à des visites. Et je pense que cette classe préparatoire et Henri Agel, qui ont été déterminants, j'ai conservé d'ailleurs de très bons rapports avec lui. Je pensais que ça se passait pas comme ça. Il venait, c'était quelqu'un d'être extrêmement croyant, qui venait le vendredi saint avec des grandes croix et tout ça, qui était intéressant. Cette vision spiritualiste du cinéma et m'a apporté quelque chose, indéniablement. Alors bien sûr, j'avais commencé, moi, le cinéma, je l'ai découvert à 6 ans au Gaumont Palace avec ma mère, et j'avais déjà... Je me rappelle toujours de ces premiers...
Quel type de film ?
Blanche-Neige, au Gaumont Palace, le grand cinéma de 5000 places, à Place Clichy, qui a malheureusement disparu.
Mais alors justement, c'est amusant que vous parliez d'Agel spiritualiste, parce que en même temps, l'endroit où vous viviez, Montreuil, l'endroit où vous vivez aujourd'hui, où on vous pose des questions, c'est Montmartre, donc c'est tout de même des quartiers populaires, le vieux Paris ou la vieille banlieue, et vous aviez un engagement social très très tôt.
Oui, j'ai été très très tôt politique, c'est-à-dire que 13-14 ans, j'avais un beau-père qui était un des membres, on va dire pas fondateurs, parce qu'ils étaient très jeunes, de la 4e internationale, qui a été déclarée en 38, et qui était très ami avec Pierre Lambert, donc qui est une des tendances du mouvement trotskiste international, assez radical, et qui a fourni énormément de cadres dans le système de la 4e puis 5e République, qui a fourni énormément de cadres culturels, de gens extrêmement connus et qui sont maintenant des gens qui sont en place et solidement en place. Donc on cite souvent Lionel Jospin, mais il y a beaucoup de gens qui viennent de ce mouvement. Et j'ai été formé très jeune à la doxa marxiste, c'est-à-dire ça c'est une manière de réfléchir avec une manière de réfléchir, on va dire, scientifique, j'aime pas beaucoup le mot, mais cartésienne et mathématique. Et il y a la politique qui vient très tôt, à partir de 15 ans, 16 ans, où je suis assez impliqué dans les mouvements de jeunesse du mouvement lambertiste, quoi.
D'ailleurs, plus tard, avec Alain Corneau, vous avez milité ensemble.
Oui.
Bien sûr, on en parlera plus tard. Mmh. Vous avez bien sûr signé la photo de quatre de ces films, mais il était lui aussi dans le même engagement.
Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui sont passés là. On peut citer Bernard Murat, il y a beaucoup de gens extrêmement connus. Juliette Berthaud, beaucoup de sympathisants. Mon travail dans le ciné a été développé. Un réseau de soutien à l'organisation qui a été extrêmement... J'ai fait un travail assez, effectif, efficace, où j'avais énormément de gens. On a recruté Marco Poli tout au début. Il y a eu beaucoup de cinéastes. Et dans le cinéma, beaucoup de gens, Dominique Labourier, le producteur Jacques Kirchner, étaient des gens qui étaient militants. Donc Corneau, effectivement, on recrutait à l'époque. Mais enfin, c'était une époque extrêmement... très différente de maintenant, c'était qu'on n'adhérait pas au parti. Il fallait être intégré dans le parti après un an d'études, qui s'appelait groupe d'études révolutionnaires. C'était aussi très culturel. On n'adhérait pas en signant son nom sur un bout de papier. Donc il y a tout un côté, on va dire élitiste, des cadres du mouvement ouvrier qui perdure. Le mouvement s'est bien sûr scissionné maintenant, mais perdure. Et j'ai gardé de très bonnes relations avec... Il y avait des savants à ce moment-là. Il y avait Gérard Bloch, qui était un savant. Il y avait Pierre Brouet, un historien remarquable. Et Jean-Jacques Marie, qui est une référence quant à l'histoire du mouvement ouvrier, que ce soit en Allemagne, en Russie, donc, qui a écrit énormément de livres. Les femmes dans la révolution russe, c'est un bouquin remarquable qu'il a écrit il y a 2 ans, qui sont des gens que je continue à fréquenter. Enfin, ceux qui ne sont pas morts.
Alors vous avez évoqué le fait que vous avez été avec Farvagy, vous avez fait l'acteur, que je crois que vous avez suivi aussi des cours de Raymond Rouleau qui avait l'école d'acteur. Bon, c'est intéressant cette possibilité aussi de devenir comédien.
Bah, la double nature, vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont, en fait, me rendent compte de leur influence, comme Rivette, qui a été quelqu'un de très important, quel que soit ce que l'on peut penser de son cinéma, sur le côté chef opérateur, acteur, c'est-à-dire être considéré en tant que technicien, en tant que type qui a la caméra, comme un acteur, hein, dans un film, est quelque chose dont j'ai pris conscience avec Rivette. Alors j'ai fait pas mal de, au début de ma carrière, j'ai fait pas mal de films dits expérimentaux, donc avec les films produits par Sylvina Boissonnas, hein, un film avec Serge Barre qui est devenu Marabout, donc qui produisait les films de Philippe Garrel, que j'ai connu à l'époque, qui vient de m'appeler pour me demander de faire le cadre de son film. C'est une activité, c'est assez comique, mais la démarche de Garrel est passionnante. C'est-à-dire, c'est 3 semaines de répétition, puis un plan qu'on tourne une fois, et il tourne en 35. Donc j'aimais bien, mais enfin, c'est toujours des choses un petit peu délicates. Il me demandait d'être cadreur avec Renato Berta. Donc, sans que ça soit incompatible, et quelle que soit l'estime que je lui porte, je pense pas que c'était une bonne solution. C'est comme quand Godard prend Lubchansky et Berta en même temps, ou Doyon qui prend Manuel Terrant et Caroline Champetier. Il y a toute une idée un peu perverse d'avoir deux personnes qui sont des chefs opérateurs. Vous voyez, ça s'est bien passé pour moi avec Lozay, mais donc ça, on y reviendra. L'idée de la comment dirais-je, de être acteur, je dis toujours, moi je suis un interprète dans un film, j'interprète en lumière des mots. J'interprète un scénario, et mon interprétation, elle dépend autant du scénario que de la rencontre, que la manière de regard, que le metteur en scène que je rencontre, avec lequel je vais éventuellement travailler, que le regard que le metteur en scène porte sur moi et que moi je porte sur lui. Et là-dessus, je suis acteur. Enfin, je dis acteur, je ne joue pas au chef opérateur, mais je pense que mon rôle est un rôle d'interprétation, de traducteur, de passeur du mot à l'image. J'ai toujours considéré mon métier comme ça, et je vous dis, ma première expérience avec Rivette a été étonnante, parce que Rivette me disait absolument rien, et on tournait sans répétition, on avait parfois une idée d'improvisation, et j'étais avec deux compagnies d'acteurs, dont Michael Lonsdale et Michel Moretti, et dans des improvisations totales. Et quand je demandais, quand on avait tourné, on a tourné énormément ce film, c'est la légende des siècles, ça dure 12h40, et quand on avait fini une scène longue, c'était des plans séquences qui duraient 10 minutes, la longueur d'un magasin de coutant de l'époque, ils ont 11 minutes. Et quand on avait fini un magasin, on en remettrait généralement, on tournait en continuité, 12h40 en 6 semaines, jour et nuit. Mais je lui demandais, mais on refait quoi là? On va refaire quoi? Il me disait rien, il fallait que je trouve. Donc c'est bizarre, mais ce côté expérimental, ce côté, je vais dire, que j'ai vu par exemple beaucoup chez mon ami Grand Perret, qui a commencé avec moi quasiment des films sur la moto, c'est exactement la même chose, c'est assez rigolo, c'est qu'on sait pas exactement ce qui va se passer. Denis Lavant parlait dans l'hommage qu'on lui a rendu récemment, il parlait de l'idée de commencer une scène sans savoir exactement où on va. Et ça, cette idée-là est une idée d'interprétation. J'ai pas fait que des films expérimentaux, mais j'ai tourné quand même avec Peter Goldman, je vous disais, Serge Barre, où on est vraiment dans l'expérimentation. Et ça, c'est aussi l'aventure, de toute manière, elle peut être dans un film construit, très découpé, et en même temps, ça peut être à trouver pour le chef-op, le cadreur, le découpage. Ça peut être ça aussi, parce qu'on m'a aussi demandé aussi beaucoup pour ça.
Alors, il faudrait peut-être un peu expliquer, même si beaucoup de nos auditeurs le savent, la distinction entre cadreur et chef opérateur, parce que vous êtes les deux. Vous avez été, bien sûr, la plupart du temps chef opérateur, mais aussi vous êtes très réputé pour le cadre. Et donc, le cadre, c'est plus physique, dirais-je, que chef opérateur.
Oui, oui. Dans le cadre, il y avait, quand j'ai commencé, les choses, on en parlera, l'évolution numérique n'a pas été toujours très heureuse, mais on en parlera après. Le cadre, c'est la manipulation de la caméra physiquement. J'ai commencé avec des caméras très lourdes qui pesaient 70-80 kilos et j'en ai un souvenir ému. Comme le
il n'y avait pas de Steadicam.
Il n'y avait pas de Steadicam, il n'y avait pas de vidéo. C'était le moment heureux où tout le monde n'avait pas une idée sur la photo, sur le cadre. Où le cadreur, c'est le monsieur qui est derrière la caméra et qui opère les mouvements d'appareil. À ce moment-là, il y avait une distinction nette. Dans le cinéma en 35, quand je suis rentré dans le cinéma, il y avait un deuxième opérateur qui chargeait les magasins, qui cherchait, qui mettait la pellicule dans les magasins de caméras. Il y avait un premier assistant qui était le responsable de la maintenance technique de la caméra dans sa globalité et qui faisait le point, rôle essentiel dans la prise de vue. Il était au service d'un cadreur qui était la personne qui, je vous le disais, manipule la caméra et tout ça sous l'égide d'un chef opérateur qui faisait la lumière.
D'ailleurs, en italien, on dit maestro della luce, maître de la lumière, c'est le
maître de la lumière, oui. Oui. Alors, la grande évolution qu'a amené la nouvelle vague, mais qui était, on dirait, inéluctable à partir du tournage en décor naturel, ça a été que les chefs opérateurs, le représentant le plus évident, c'est Raoul Coutard, ont fait en même temps le cadre et la lumière, dans la mesure où il tournait en extérieur, la lumière se fait beaucoup au cadre, dans la composition géométrique de ce que vous filmez. Et donc, il y a eu, avec pas mal de difficultés, parce que le métier était régi par des cartes professionnelles, il fallait avoir fait 3 films comme deuxième pour avoir une carte comme premier, 3 films comme premier pour avoir une carte comme cadreur, 3 films comme cadreur pour avoir une carte comme chef op. Ce qui fait que quand vous arriviez chez POV, vous aviez au moins l'expérience et vous saviez ce que vous pouviez demander aux personnes qui travaillaient avec vous. Ça a été cassé au milieu des années 90 sur les désidératés de l'Europe, en savoir qu'on ne pouvait pas faire un film en France à ce moment sans avoir un nombre réglementé de cartes professionnelles. Et donc, moi j'ai commencé mes films comme cadreur. Par exemple, j'ai tourné avec Sacha Virny comme cadreur, avec un monsieur qui s'appelait Jean Gonnet. Et les films dont je vous parle, donc souvent c'était compliqué, Jean Gonnet est parti à la fin des films de Serge Barre et je remplaçais. Mais les premiers gros films, quand je dis gros films, c'est les films qui coûteraient très cher maintenant, qui sont les films de Giovanni, qui sont des films qui n'ont pas eu de succès. Giovanni, à cette époque, avait fait des gros succès commerciaux et voulait être auteur des films, donc être scénariste et auteur. Et j'ai fait grâce à Alain Corneau. Il y a toujours eu une intimité tout à fait étonnante entre Alain et moi. Il m'a présenté à Giovanni, j'avais 27 ans, pour faire un gros film qui s'appelait Un aller simple, ou ce qui était une coproduction, comme à l'époque, italienne, espagnole, française, et donc un film qui se tournait dans plusieurs pays avec des moyens, avec une équipe d'électriciens conséquente, une dizaine d'électriciens, et beaucoup de lumière. Et là, j'avais un cadreur, qui était Jacques Loiseleux, que je retrouve après et qui m'a succédé auprès de Piala. Et donc j'avais un cadreur qui était l'obligation de l'époque. J'ai eu ça dans deux films. Et j'ai commencé comme opérateur cadreur officiellement, alors que j'avais fait Camarade avec Kermit, où je n'apparaissais au générique que comme cadreur, alors que j'étais opérateur et cadreur. Ça, c'est les années, c'est 69. Et c'était assez, officiellement, c'était Jean Gonnet qui était à ma place. J'ai fait le boulot à sa place. Il m'a prêté, on prêtait. C'était le travers de ces cartes professionnelles, c'est qu'on se prêtait les cartes. J'avais proposé de prêter ma carte professionnelle à Ricardo Aronovitch, qui était un exilé politique argentin. En Amérique dans les années 70, oui. Et argentin. Et les prêts des cartes, c'était aussi une coutume. Donc passer du opérateur cadreur, c'est Truffaut qui m'a obligé à, et Rivette et Truffaut, ils avaient eu des problèmes de communication entre leur chef op et le cadre. Ils retrouvaient pas au cadre ce qu'ils avaient demandé au chef op sur des mauvaises communications. Donc la condition impérative pour tourner une belle fille comme moi, c'était que je fasse le cadre et la lumière en même temps.
Alors justement, vous parliez du côté physique du cadreur. Votre pratique des arts martiaux, d'une part, et d'autre part, de la moto, parce que vous avez même fait deux films, on en parlera, Le Cheval de Fer, votre premier film, c'était justement sur la moto, et puis vous avez aussi fait le portrait de groupe avec enfants et motocyclette, donc la moto vous concerne beaucoup.
Et 23h58, qui se passe dans le cadre des 24 heures du Mans, qui est une fiction.
Voilà, et d'autre part, moto. Les arts martiaux, donc ce sont là aussi deux activités physiques.
Oui, je revendique le côté physique du cinéma, je revendique le côté mécanique du cinéma, et je revendique l'intuition. C'est-à-dire que les arts martiaux vous amènent à être en contact intime avec la personne qui est en face de vous et à comprendre ce qu'il va faire avant qu'il l'ait fait. C'est-à-dire à rentrer, on dit, c'est zanouzen, c'est-à-dire rentrer dans la personne au moment où elle va faire quelque chose. Donc ça développe une étude extrêmement approfondie de la personne qui est en face de vous. On regarde les pieds, la manière dont ils vont bouger, la manière dont un coup de pied ou un coup de poing va partir. Et ça a été pour moi la meilleure indication. C'est-à-dire, moi, j'ai fait très longtemps de l'aïkido, donc j'étais deuxième dan d'aïkido, et j'ai fait très longtemps du karaté. Mais j'étais beaucoup plus karatéka que aïkibudoka. Mais c'est des choses qui m'aident toujours. C'est-à-dire, c'est une discipline d'abord. C'est une discipline, on va dire, pour arriver à la compétition qui est quotidienne. Mais je me suis toujours entraîné dans le cinéma. C'était assez drôle. Dans les films, je cherchais dans les villes où j'allais. J'allais dans le club de karaté local, voir si je pouvais pratiquer 2-3 fois par semaine. J'ai toujours fait ça. Et quant à la pratique de la moto, c'est un peu la même chose. Il est essentiel de comprendre, pour moi en tout cas, je suis toujours sur les fondamentaux, comprendre le cinéma comme... Le cinématographe, c'est écrire en mouvement et écrire en lumière, avec l'énergie. Et donc, que ça soit les arts martiaux ou la moto, il y a une notion essentielle d'énergie et il y a une notion essentielle de mouvement. Et il y a une manière de faire avec l'énergie et le mouvement. Il incarne parfaitement pour moi cet objet que je n'ai pas quitté depuis que j'ai 15 ans. J'ai conduit des motos avant l'âge légal. Et j'ai toujours des motos. Ça fait quand même quelques dizaines d'années que je pratique cette discipline que je n'arrêterai pas. J'ai plus peur de tomber maintenant, parce que j'ai eu beaucoup d'accidents, donc j'ai plus peur de tomber maintenant que je l'avais quand j'étais plus jeune. Là maintenant, après une dizaine d'accidents et être un peu cassé partout, je commence à être un petit peu plus... Je veux dire, je vais plus lentement.
Alors pour revenir à l'IDEC, quelles ont été les rencontres que vous avez faites avec des chefs-op qui vous ont appris des choses? Je sais que vous avez, par exemple, travaillé avec Alain Derobe, qui est un grand chef opérateur. Quels souvenirs vous avez de gens qui vous ont marqué à ce moment-là?
À ce moment-là, ma curiosité, c'est avec ce qu'on appelle la vieille génération. Ma curiosité, on m'a souvent opposé à Henri Alcan, et on en parlera après. Les gens qui sont venus superviser mes travaux, images, à l'IDEC, c'était Quinto Albicocco, le père de Gabriel, et Louis Page. Pour moi, j'ai toujours été cinéphile, et je reste toujours sur le plaisir esthétique, la jouissance esthétique que m'amène la vision d'un film. Et souvent, le film serait ennuyeux si j'y trouvais pas du plaisir à voir la manière dont il est fait. C'est-à-dire que je peux pas souvent me séparer de la manière. Pour moi, c'est le style. Donc l'idée de l'image d'un film, c'est une construction. On oublie maintenant qu'on essaye d'oublier. C'est une construction. Et je revois beaucoup de films, je veux dire, des années 30, 40, sur la lumière. Ça a été fondateur, je pense, inconsciemment aussi. C'est-à-dire que par rapport au cinéma expérimental, nouvelle vague, opérateur, cadreur, j'ai sûrement été beaucoup influencé par ces gens. Alors, je me disais, c'est pas forcément comme ça que ça marche, parce qu'à l'époque, les pellicules étaient très peu sensibles. Il y avait un niveau de lumière qui était impressionnant. Et on n'avait pas toujours le sentiment qu'on comprenait pourquoi, quand sur le premier film avec Albicocco, je comprenais absolument rien. Moi, j'avais des cellules et luxmètres et je mesurais toutes les lumières dès qu'il allume un projecteur. Et je me disais, ça correspond pas. Le matin, il faisait tout à l'œil. Jusqu'aux années 50, les premières cellules photoélectriques, c'est 1947. Et donc, tout était référence avec un développement des bouts d'essai que j'ai fait avec Alain Derobe. Et cette idée que ces types, à l'œil, disaient, tiens, bon, 5-6, un tiers, 5-6, un quart, c'était assez impressionnant au début. Ça m'a impressionné la première matinée. L'après-midi, j'avais des différences énormes, mais je pensais que c'était pas possible. Et je disais, si c'est ça la prise de vue, je vois 4 diaphs de différence, c'est un métier que j'arriverai pas à faire comme il fait. Et en fait, j'avais raison. C'était des noirs avec des draps blancs dans un décor et c'était inondé de lumière. Je me disais, c'est pas possible. Il me disait, les noirs, la peau noire, ça renvoie rien. Et il éclairait et l'après-midi se trompait de manière impressionnante. Finalement, ça vous conforte dans l'idée que c'est quand même qu'on mesure, que l'œil c'est bien, mais qu'il y a un moment, maintenant, il est essentiel avec des pellicules qui font l'équivalent de 5000 ASA, avec des possibilités insensées sur des algorithmes à partir du RAW, c'est-à-dire de la captation RAW avec les grands capteurs, on arrive à, j'ai vu des essais la semaine dernière de 200 000 ASA. Donc, qui sont des choses étonnantes.
Alors, il ne faut pas se cacher que tout de même, votre cinéphilie était beaucoup américaine.
Oui.
Puisque votre mémoire de l'IDEC, première année de l'IDEC, c'était avec Bertrand Tavernier qui était votre directeur de mémoire, c'est violence et psychanalyse dans la série B américaine. Vous avez eu 19 sur 20, si je m'abuse. Quels étaient ces Américains que vous admiriez? Enfin, est-ce que vous aviez repéré des directeurs de la photo dans le cinéma hollywoodien?
Corneau était avec moi à l'IDEC, on était très très fanat de Don Siegel. On était très 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 impressionné par Don Siegel. Des chefs-op de l'époque, j'étais pas ce que je suis devenu. Je voyais des thèmes. Vous voyez, j'ai traité de la violence dans un thème où j'étais moins ce que je suis maintenant, ce que je vais maintenant analyser la manière dont c'est fait. Par exemple, sur À bout portant, le film de Siegel, j'ai cherché le rapport avec Les Tueurs de Siodmak. J'avais vu les deux films en même temps. Je voyais une manière expressionniste peut-être plus intéressante avec le recul, mais moi j'avais fait un truc sur la modernité à ce moment-là, sur dans les chefs-op de l'époque, moi les chefs-op c'est Léon Chamroy, c'est Karl Freund, c'est Barnes, c'est Lee Garms, c'est des références que j'ai des grands films hollywoodiens, et ça je pense que ce sont toujours des références incontournables. Et quand j'étais à l'IDEC, je voyais ces chefs opérateurs sans l'analyse que j'ai maintenant. Et je voyais pas l'importance essentielle de ces inventeurs de lumière. Et puis moi, pour moi, le langage cinématographique, c'est d'abord, bien sûr, les opérateurs lumière, mais tout de suite, pour moi, c'est en Amérique que ça se développe. Vous avez l'opérateur de 2000, il s'appelle Alvin Hitchcock, acteur aussi, qui fait des films étonnants avec des prises de risque étonnantes sur le contraste des 1915. Forfaiture est un film étonnant. Et vous avez tout de suite les gens qui inventent le langage cinématographique, c'est-à-dire Willy Bitzer et Karl Freund. Les premières caméras portées, c'est marrant, c'est 25, c'est Karl Freund, et ils appelaient ça, eux, la caméra portée avec un harnais, ils appelaient ça la caméra déchaînée. Il est parti sur les inventions de la grue dans les films de Murnau, qui sont des merveilles. Et je vous dis, toutes ces références-là, c'est à cette époque, je suis cinéphile, je suis à la Cinémathèque quasiment tout le temps, je vois Metropolis pas comme le travail de Karl Freund. Je vois Metropolis sur l'idée d'un film expressionniste et tout ça, et l'analyse, elle est venue après. Et à l'IDEC, je suis beaucoup plus sur une idée essentielle de rapport entre psychanalyse et cinéma, entre violence et cinéma, et je suis beaucoup plus là-dessus.
Merci beaucoup, Pierre-William Glenn. Donc, demain, nous continuons avec vos rencontres avec les metteurs en scène.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Michel Simon avec Pierre-William Glenn. À voix nue, réalisation Nathalie Salle, prise de son Jean-André Giannichini, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.